Alors, il y a deux semaines, je pense, on a fait notre portrait. On s'est divisé en 8 petits groupes. Et puis, j'ai demandé de... Quelles sont les valeurs? Puis là, c'est des membres depuis longtemps, quelqu'un qui vient d'arriver ici. Qu'est-ce qu'il voit dans notre église? Si on prend une photo de notre église, quelles sont les valeurs qui ressortent, si on pourrait dire, quand on regarde notre église? Alors, le conseil, avec Francis Pearson, on a fait l'exercice sur plusieurs semaines, là. On a réfléchi là-dessus. Alors, vous avez eu 10 minutes. Nous autres, on a eu plein de temps. Puis, j'ai combiné les deux pour voir si on était dans le champ ou bien si ça correspond. Alors, quelle est la première... On a divisé ça en trois. Hein? La connaissance intime de Dieu, donc la relation avec Dieu, la communion entre nous, la relation entre frères et sœurs, et la communauté, la relation qu'on a avec les gens de l'extérieur. On a divisé les valeurs en ces trois catégories-là. Et la plus grande valeur, je pense que je l'ai mentionné la semaine passée. On peut avancer? Hein? L'accueil et le respect de l'autre. À gauche, le 1, c'est ce que les anciens, on a trouvé. Puis, en parenthèse, c'est ce que l'Assemblée, cette journée-là, avec les gens qui étaient là, vous avez retenu la valeur principale de l'Église de DDO, on va l'appeler encore comme ça. Alors, c'est, on est accueillant et il y a un respect les uns pour les autres, un respect des autres personnes. C'est ça qui ressort le plus des gens qui sont là. Ce que vous avez, c'est les textes du sondage, hein? Égalité, flexibilité, capacité de s'ajuster, de s'adapter, ouverture, une mosaïque, l'amour du prochain, l'humilité, simplicité, ouvert d'esprit aux communautés environnantes et à toutes les cultures. Alors, c'est un peu le premier portrait. Deuxième portrait. Là, il y a une petite différence. On peut avancer, Pascal? Alors, vous voyez que pour les anciens, la valeur qui ressortait, c'était la relation personnelle avec Dieu, la relation intime qu'on a avec Dieu, tandis que pour les gens qui étaient ici, ça tombait au sixième rang. Et le deuxième, si on combine les deux, c'est la fidélité et l'autorité des Écritures. Alors, ce qui ressortait du sondage et qui est en troisième position, pour le conseil, en deuxième pour les gens de l'Assemblée, c'est qu'on était fidèles aux Écritures, que les Écritures avaient une autorité. Hein? Bon enseignement de la parole basé sur la Bible qui enrichit la lumière, l'éducation chrétienne des jeunes et des enfants. Alors ça, c'est le deuxième image qui ressort de notre Église. La première, c'est l'accueil, on est accueillant, pas de préjugés, pas de... Hein? Il y a beaucoup de respect les uns pour les autres. Et le deuxième, c'est l'importance des Écritures, l'importance de la parole de Dieu. Elle est au centre de tout ce qu'on fait. Voulez-vous avoir le reste? Rapidement, on va avancer. Non, l'autre avant. OK. Alors, vous avez le quatrième, c'est troisième, l'importance de la famille. Ça, on parle de l'importance qu'on attribue aux enfants, aux jeunes et à la famille dans l'Église. Le cinquième, le service selon ses dons. Alors, les gens servent le Seigneur selon leur appel particulier dans l'Église, selon leur don particulier. Ça ressortait. Le sixième, l'adoration. Ça inclut la musique là-dedans. On a beaucoup de talents musicaux. On a trois équipes de louanges. Il y en a d'autres en formation qui sont en train de pratiquer au camp David, là. Alors, ça, c'était le prochain. C'est ex aequo, la communion fraternelle entre nous et la générosité. Ça, c'est un autre élément qui ressortait. Ensuite, on s'en va, justice et compassion, l'engagement communautaire. Beaucoup de gens de notre Église sont engagés dans différents ministères, dans la communauté, et même dans la province et à travers le monde. Le dixième, un mot nouveau, missionnel, c'est-à-dire que c'est un nouveau mot pour au lieu d'envoyer des missionnaires à l'étranger, ce sont les étrangers qui viennent et ils deviennent notre mission ici sur place. Alors, c'est chaque personne a la mission d'annoncer l'Évangile. Et il y en a un petit en haut, le discipulat, la formation de disciples. C'est encore embryonnaire. Ça ne fait pas partie encore des... mais tout le monde le veut. Hein? Et la coopération stratégique avec les différentes églises et différentes organisations qui sont autour. Alors ça, c'est le portrait global de notre Église. On va revenir là-dessus probablement. Mais si on prend une photo de l'Église d'Edéo, alors, c'est à ça qu'on ressemble. Est-ce que c'est... est-ce que Jésus serait d'accord avec ça? Hein? Ben, on a sa parole. Et on va se concentrer sur le numéro 3, la fidélité et l'autorité des Écritures. Alors... je pense que Jésus est très d'accord sur l'importance et l'autorité des Écritures dans la vie d'une Église, d'un enfant de Dieu. C'est capital, c'est fondamental. Hein? Et il y a une image, une métaphore qui est très forte, c'est très frappant, si on avance, Pascal. Hein? Il dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? » Et là, je vais vous montrer à qui ressemble quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. Il est comme un homme qui s'est mis à bâtir une maison. Il a creusé profondément la terre, a posé les fondations sur le roc. Quand l'inondation est venue, les eaux de la rivière se sont jetées contre cette maison, mais sans pouvoir l'ébranler, car la maison était bien bâtie. Mais quiconque écoute mes paroles et ne les met pas en pratique est comme un homme qui a bâti sa maison sur le sable, etc., etc. Alors, oui, Jésus, vraiment, et je pense que tout le Nouveau Testament nous dit que c'est important que notre vie soit bâtie sur le roc. On va voir tantôt qu'est-ce que c'est que ce roc-là. Et juste avant, question de vie spirituelle, si on avance, il parle que chaque arbre se connaît à son fruit. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, de son cœur. Alors, un enfant de Dieu qui a un nouveau cœur, qui est régénéré, va produire des fruits dignes de ce cœur-là. Hein? Tandis que celui qui ne l'est pas, ne peut pas produire ces fruits-là. Alors, c'est des paroles qui sont très dures, très frappantes, qui nous appellent à nous examiner, à examiner notre foi. Ça prend quatre éléments pour que la parole de Dieu fasse son effet dans ma vie. Il y a quatre éléments qui sont importants. Le premier, c'est pour qu'il y ait de la foi, pour qu'il y ait une foi vivante, pour qu'il y ait une foi qui porte du fruit. Qu'est-ce que ça prend? Ouais, la semence. Premièrement, la semence. Hein? Est-ce que la semence a une puissance? La parole de Dieu est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alors, cette parole, hein, la parole qui est écrite dans la Bible, la parole de Jésus, cette parole-là, en soi, elle a un pouvoir, comme la semence dans la terre. Ça a l'air insignifiant, une semence. Peut-être qu'il y en a qui peuvent dire, c'est quelle semence que c'est ça, mais... moi, je peux pas. Des fèves? Ouais. Alors, hein? Une petite semence, une toute petite graine, là, ça a un pouvoir extraordinaire, n'est-ce pas? Et rappelons-nous toujours que la parole, lorsqu'elle est elle-même, a un pouvoir dans le cœur des gens qui nous entourent. Quand on parle du Seigneur, la parole a un pouvoir dans le cœur des enfants qui sont en train de la recevoir. La parole a un effet dans le cœur de mes enfants. Actuellement, la parole a un pouvoir. Et il ne faut pas douter de ce pouvoir-là. Elle a le pouvoir de quoi? Régénérer. Ça veut dire quoi, régénérer? Transformer, c'est peut-être pas assez, transformer. Amener à la vie, hein? Donner la vie. Renaître. Nouvelle naissance. Alors, la parole, on est régénéré par la parole. La parole a le pouvoir de changer mon cœur complètement. Hein, le verset qui dit qu'il a enlevé de nous le cœur de chair, non, le cœur de pierre, merci, et qu'il a remplacé par un cœur de chair, un cœur tendre, un cœur qui est réceptif, un cœur qui aime le Seigneur. Alors, c'est un miracle. Hein? Peut-être que vous ne le saviez pas, là, mais si vous avez accepté Jésus, vous avez un nouveau cœur. Vous avez reçu un nouveau cœur qui a été régénéré par la semence qui a été plantée en vous. Vous n'êtes plus ce que vous étiez avant de venir au Seigneur. Il y a quelque chose de nouveau en vous. Bien sûr, ça paraît pas parce que peut-être le vieux, là, il cache. Mais si on gratte comme faux, là, si on gratte le cœur comme faux, là, ce qu'on va trouver, c'est un cœur qui aime Dieu. Alors, ça, c'est le premier élément. Et pensons au pouvoir qu'ont les mots. Est-ce que les mots ont un pouvoir? Les mots en général, là, ça a le pouvoir de quoi? Blesser? Encourager. Oui, on exprime quelque chose, mais ça a le pouvoir de blesser, tuer. Hein? C'est là que c'est comme des coups de poignard. Ou édifier. Hein? Alors, une bonne parole peut servir à encourager, peut servir à édifier. Et il y avait un psychiatre, je ne sais pas si vous avez écouté, tout le monde en parle, dimanche dernier. Il y a un psychiatre de Sainte-Justine, lui, il traite les anorexiques. Et durant l'entrevue, il y a quelque chose qui m'a frappé. Il dit qu'il pouvait faire remonter la source du problème aux paroles, aux mots que les parents ont semés dans le cœur de leurs enfants. Ils pouvaient retourner à la source. Et c'était d'enlever cette chose. Oui? Oui. Mm-hmm. Alors, la puissance de la parole. Hein? La parole méchante d'un père, ça peut détruire, hein? On est rendu à peut-être 1500 personnes qui ont passé aux forteresses, là. Et on peut mettre le doigt là. Quelqu'un qui a dit quelque chose à un enfant, ça a rentré comme un poignard, ça a fait mal, mais il y a quelque chose d'écrit sur le poignard. Toi, mon fils, tu ne vaux pas grand-chose. Et c'est planté là dans le cœur. Puis ça détruit toute la vie. Toute sa vie est bâtie sur ce mensonge-là. Et on essaie de l'enlever puis remplacer par la vérité. Et la vérité, c'est? Ouais, t'as un papa qui t'aime. Ça, c'est la vérité qui libère, la vérité qui change les cœurs. Alors, si la parole d'un père, là, je parle négativement, mais on pourrait dire positivement aussi, il y a des papas qui vraiment vont communiquer que les enfants ont de la valeur, et les mamans aussi. Mais, tu sais, t'es rien qu'un « si », t'es rien qu'un « ça ». Ça, c'est un coup de poignard qui a détruit ton enfant. Mais si la parole d'un père terrestre a un effet comme ça, imaginez la parole du Père céleste quand il parle à son enfant. La parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu quand Dieu parle à son enfant. La puissance de la parole d'un mari à son épouse. La puissance de la parole de Jésus qui parle à son épouse. Hein? Et vice-versa. Ouais. Si Dieu il dit, là, je vous ai tellement aimé, est-ce que ça a un pouvoir, ça? Je pense qu'on y croit juste un petit peu. En tout cas, je parle pour moi, là. On oublie vite jusqu'à quel point Dieu nous aime. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son propre Fils. Il l'a laissé clouer sur la croix. Hein? Par des hommes qui auraient pu. Il l'a laissé faire. Pourquoi? Parce qu'il est méchant. Hein? Dieu est méchant, il laisse le mal arriver. Non, Dieu a un plan. Il aime l'humanité, puis c'était le moyen qu'il a trouvé pour le racheter. Ramener nos cœurs au Père. Hein? Alors, ça, le premier élément, c'est la puissance de la parole. La puissance de la parole de Dieu. C'est pour ça que lire la parole de Dieu, c'est pour ça que méditer la parole de Dieu, c'est capital. Hein? C'est ça qui va nourrir mon âme, c'est ça qui va me transformer, qui va transformer mon âme. Deuxième élément, peut-être, il est là aussi. Le voyez-vous? Ça prend de la semence, mais ça prend la bonne terre. Hein? Ça fait une différence quand la semence, la parole de Dieu, est plantée dans la bonne terre, une terre qui est réceptive. Et il y en a quatre sortes de terres. Vous vous souvenez de la parabole? Il y en a combien qui sont bonnes? Il y en a une. C'est laquelle? La bonne. Et on la voit comment? Le fruit. On reçoit la parole, elle pénètre dans le cœur, et puis il ressort quelque chose de cette parole-là dans nos vies. Il y a un effet dans nos vies. Alors, le deuxième élément, c'est ça. Il y a un prérequis qui fait que la semence, elle va produire son fruit, elle va faire son effet, et c'est la foi. Hein? C'est la foi qui reçoit la semence, qui est la bonne terre qui reçoit la semence, et qui va faire que la semence va produire son effet. Hein? Il y a comme une symbiose entre la parole de Dieu, la semence qui est plantée, et la réceptivité de mon cœur. Quand les deux se touchent, le miracle se produit. On pourrait dire que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi, ça vient de la parole de Christ. Les deux fonctionnent ensemble. Lorsque la foi, lorsque la parole de Dieu tombe dans un cœur qui est réceptif, qui croit à la parole, il se passe un miracle. Premièrement, la régénérescence, et puis, par la suite, cette parole-là est activée dans mon cœur. Alors, c'est comme un pédalier, hein? La parole de Dieu, ça suscite la foi, ça éveille la foi, ça permet la foi, lorsque ça vient en contact, et la foi, ça met en œuvre, ça fait agir la parole de Dieu. Vous voyez le pédalier? La parole de Dieu éveille la foi, et la foi met en œuvre la parole dans nos vies. Il y a comme un effet qui est salutaire. Il y a une mise en garde sévère. C'est pour ça que Jésus a dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » On va regarder de plus près c'est quoi avoir la foi. Ce texte-là, il a été prononcé, pas contre les pharisiens. Ailleurs, dans Matthieu, je pense que c'est contre les pharisiens. Mais là, il est adressé à ses disciples, aux gens qui viennent d'entendre le sermon sur la montagne. Les gens, ils ont aimé ce qu'ils ont entendu. Ils ont dit, c'est le Seigneur, c'est le Messie, c'est le Maître. Ils ont reçu l'enseignement, puis ils l'ont appelé Seigneur. Et Jésus leur dit, carrément, c'est assez raide, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Il y a une relation entre la semence qui est reçue et la réaction face à ce qui était reçu. On va revenir là-dessus, mais j'aimerais terminer le tableau. Qu'est-ce que ça prend pour que la semence fasse son effet? La semence. Ah, ben là, OK. Mais, oui. Alors, il faut qu'il y ait de la bonne terre, la semence, la bonne semence, la vérité, la parole de Dieu, authentique. Il faut qu'elle soit prêchée. Et ça tombe dans une terre qui est réceptive, la foi. Ce que je lis, ce que je connais de la parole de Dieu, ça ne doit pas rester sans effet, n'est-ce pas? Et celui qui a reçu un cœur nouveau, ça ne reste pas sans effet. C'est automatique. Alors, comme Marie-Andrée. Ouais, mais je pense que. Un petit problème. Qu'est-ce que ça prend? On ne voit pas les gouttes de pluie, là, mais il y en a. Alors, pour que la semence grandisse, ça prend une intervention céleste. Hein? Un troisième élément, c'est Dieu qui agit, qui fournit la pluie, qui fournit la chaleur, qui va faire que la semence, ça va se développer. Alors, il y a tout le côté divin, hein? Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Alors, il y a Dieu qui attire les gens à lui. Il y a des gens qui doivent être attirés par, on doit être attiré par le Seigneur si on veut venir à lui. Tout le travail du Saint-Esprit, quel est le travail du Saint-Esprit? Quand c'est des versets? Par rapport à la semence. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans le cœur? Fait croître, hein? C'est lui qui fait croître la foi. Autre chose? Il nous éclaire, hein, le soleil. Il éclaire. Il enlève le voile. Hein? C'est lui qui convainc. C'est lui qui appelle. Il y a tout le travail, un travail de la part de Dieu qui fait que j'ai accepté le Seigneur, qui fait que cette semence-là dans mon cœur a produit du fruit. Et c'est pas 50-50, moi je crois pas ça. Je crois pas que Dieu a fait sa part, je dois faire la mienne. Je crois que c'est 100% Dieu qui fait sa part et que c'est 100% moi qui dois faire la mienne. Comment expliquer ça, là, si ça me dépasse? Mais je crois que c'est ça. Dieu fait sa part. Et je dois faire la mienne à 100%. 100% responsable de ma réponse, 100% responsable de ma foi, de la façon dont je réagis à la semence qui se met dans mon cœur, et 100% responsable de la réponse que je fais au Saint-Esprit qui travaille dans mon cœur. Hein? Alors, trois éléments, ça prend la semence, il faut que ça tombe dans bonne terre, l'œuvre de Dieu, et qu'est-ce qui manque? Oui, c'est bon ça, mais ça c'est dans le troisième. Le Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous inspire, qui illumine les yeux de notre intelligence pour qu'on voit briller la splendeur de l'Évangile. Oui, ça c'est le cœur, la bonne terre. La volonté, la bonne terre. C'est simple, qu'est-ce qui manque? Alors, pas de semence qui est semée, il n'y a pas de foi qui est possible. Hein? On a eu le témoignage la semaine dernière de Dia Ara. C'est exactement ça. Hein? Toute seule. Elle a pris le Nouveau Testament durant la nuit, elle s'est mise à lire le Nouveau Testament, puis le cœur ouvert, la semence de Dieu. Il y a quelqu'un qui avait donné un Nouveau Testament. Quelqu'un qui avait semé l'idée que Jésus était le prophète, hein, à qui on pouvait se fier, à qui on pouvait faire confiance. Pardon? Oui, oui. Mais ça prend quelqu'un, même. Qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? Hein? Il y a quelqu'un qui sème, il y a quelqu'un qui prêche, qui annonce l'Évangile. Qu'est-ce qu'on fait entre nous dans les petits groupes, les groupes maison? Hein? Il y a quelqu'un qui arrose. Hein? Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, Dieu fait croître. Alors, il y a tout un aspect communautaire à l'effet que la semence a dans mon cœur. Ça prend quelqu'un qui va la planter, quelqu'un qui va aider. Alors, on a les quatre éléments. Comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Question rhétorique que Paul pose. Et la réponse est bien simple. Je ne peux pas croire s'il n'y a pas l'Évangile en quelque part, s'il n'y a pas la semence de Dieu en quelque part. Alors, ça prend des semeurs. Et à qui est-ce que Dieu a confié ça? Non. La mission de Jésus, il a dit, je vous la donne. Est-ce que Dieu a d'autres plans que l'Église? Oui. Il n'y a pas d'autre espoir pour l'humanité que la parole de Dieu qui est annoncée, qu'il y a des gens qui annoncent l'Évangile. Alors, c'est comme une... Ça prend ces quatre éléments-là, c'est comme une symbiose encore des quatre éléments qui vont ensemble. Et Jésus, dans la métaphore là, de celui qui bâtit sur le roc, met l'accent sur la responsabilité d'un disciple de croire la vérité. Il illustre ça comme quelqu'un qui bâtit sa maison sur le roc. Alors, bâtir sa maison sur le roc, ça veut dire quoi, d'après vous? Sur du solide? Sur la vérité, en partie vrai. C'est quoi le point que Jésus veut apporter? Oui, c'est commandement, sa parole, c'est la vérité. Sa personne aussi, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait? On doit comprendre ça, on doit connaître ça. Mais c'est quoi son point? Ah! La mettre en pratique. Ça, c'est ça le point. Donc, quelqu'un qui bâtit sur le roc, c'est quelqu'un, pas seulement qui a la vérité, qui a entendu la vérité, mais quelqu'un qui la met en pratique. Hein? Son point, je pense, c'est quelle autorité a la parole de Dieu dans ma vie? C'est ça son point. Pourquoi m'appelez-vous maître, Seigneur? Pourquoi est-ce que vous me donnez cette autorité-là? Et puis, en pratique, vous ne faites pas ce que je dis. Alors, bâtir sur le roc, c'est croire dans, non seulement dans la vérité, qui est le premier élément, mais croire que cette parole-là, c'est l'autorité. Le reconnaître comme maître dans ma vie, ça change ma vie. Si ça ne change pas ma vie, c'est que j'ai un autre maître, tout simplement. Il y avait un navire dans la nuit, puis c'était plein de brouillard. Visibilité nulle. Puis à un moment donné, en face, ils aperçoivent à travers le brouillard une lumière. Alors, le capitaine, il envoie un message radio. « Tassez-vous de 10 degrés au sud. » Alors, il attend la réponse. La réponse est « Non, c'est à vous de vous tasser de 10 degrés au nord. » Il répond « Non, non, c'est à vous. Tassez-vous, là, je suis capitaine Smith, et puis c'est un ordre que je vous donne. Tassez-vous de là. » Ça répond « Non, tassez-vous. C'est vous qui vous tassez. » Il dit « Je suis le capitaine Smith, c'est un navire de guerre. Tassez-vous. » Il y a eu un silence, puis la réponse est « Ici, le phare. Tassez-vous. » comme notre église, hein, c'est le Far West. Hein? Ça pourrait être un beau nom. Oui, c'est ça, avec nos bibles. Luc et Luc. Ouais, Luc, ben oui, Luc. Ouais. Ça veut dire quand Dieu parle, on est mieux d'écouter. Et c'est vraiment, ça nous dépasse, hein? Lorsque on voit, parce qu'on voit ces commandements comme quelque chose qui est négatif, comme quelque chose qui est contraignant, quelque chose qui nous empêche de, hein, qui nous prive du bonheur, qui nous prive de, on voit la parole de Dieu, on voit le message de l'Évangile comme quelque chose qui va m'empêcher d'avoir le bonheur. Terrible. Hein? Quel mensonge. Dieu nous a mis des commandements. Dieu met des paroles pour notre bonheur, pour notre bien, pas pour notre malheur. Quand il dit pas de relation sexuelle avant le mariage, c'est pourquoi qu'il dit ça? Pour nous priver? Hein? Ou en dehors du mariage? Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on ne suit pas? On frappe un écueil. Mon amour pour Dieu est proportionnel à l'amour que j'ai pour ses commandements, pour sa parole, pour sortir 10 versets bibliques qui disent ça. Juste lire les psaumes. Hein? Je ne sais pas si vous lisez les psaumes dans votre culte. Combien de fois il dit « Ah, j'aime tes commandements. J'aime ta parole. Tes commandements me donnent la vie, me font vivre. Hein? » Alors, question de vie ou de mort. Quand Dieu parle, quand Dieu dit quelque chose, c'est précieux. Quelque chose qui fait du bien, c'est quelque chose qui va changer ma vie. Pourquoi est-ce que je suis têtu, entêté à faire... Hein, c'est un vieux péché, ça date d'Adam et Ève. On va faire ce qu'on pense qui est bien, qui est bon pour nous. Et on récolte ce qu'on sème. Qui veut une vie fructueuse? Hein? On en veut tous, une vie fructueuse. Dieu nous a donné un cœur réceptif à sa parole. Si on est ici, là, c'est parce qu'en quelque part, on aime Dieu. Hein? On a besoin, on a soif d'entendre des paroles qui vont nous aider à grandir dans notre foi. On a soif des frères et sœurs autour, la semaine, là, on est étrangers sur la terre. On essaie de parler de Dieu, puis c'est étrange. Pour un Québécois, qu'est-ce que ça veut dire croire, en terminant? Est-ce que les Québécois croient en Dieu? Je pense que c'est entre 80-90%, encore. La tendance à baisser, mais il y a encore 80-90% qui vont dire qu'ils croient en un Dieu selon leur... Mais, hein? Et il y en a beaucoup là-dedans qui vont dire qu'ils sont des croyants, non, pratiquants. Pour eux, ça veut dire qu'ils ne vont pas à l'église plus que deux fois par année, dans les sondages. Hein? On a séparé comme la religion de l'État, et je dirais qu'on a séparé la foi de notre vécu quotidien aussi. La foi, c'est quelque chose de très, très privé. On ne parle pas de nos relations sexuelles avec n'importe qui. Et on ne parle pas de notre croyance avec n'importe qui. C'est un sujet très, très, très intime, n'est-ce pas? On ne parle pas de ça. Et pour nous, un chrétien, qu'est-ce que c'est que croire? Ah, merci, mais j'ai fini. Oui, je reçois l'eau comme je reçois l'amour de mon frère. Hein? Qu'est-ce que c'est que croire pour un chrétien? Est-ce qu'un croyant non pratiquant, ça a du bon sens? Hein? Ouais. Ouais. Croire, là, je ne sais pas si ça allait me croire, mais c'est synonyme d'obéir. On regardera ça la prochaine fois. Mais vous pouvez, à plusieurs endroits, le mot foi ou le fait de croire, on pourrait mettre obéir. C'est très différent de la notion de croire, hein, dans notre société. Qui est-ce qui croit que l'exercice est bon pour la santé? Qui en fait? Voici les vrais croyants. Hein? C'est une chose de savoir que c'est bon pour la santé. Mais en quelque part, j'y crois pas si je le fais pas. Je crois que ça va bien aller quand même si je fais pas d'exercice. Hein? Et on peut appliquer ça aussi spirituellement. On pense que ça va bien aller pareil. Même si on ne fait pas trop, je dirais la chose que le Seigneur veut que je fasse. Si on veut savoir ce que Dieu veut, là, c'est pas lui le problème, là. Si je prie sincèrement, là, hein, le jeune homme, la jeune fille, là, qui ont loué un motel, ils sont pas mariés, sont à genoux au pied du lit, puis Seigneur, hein? Est-ce que Dieu vous répond? Michel qui arrive, qui frappe à la porte, le pasteur, par hasard, Dieu va répondre. S'ils veulent vraiment savoir la réponse, mais si c'est juste pour se donner bonne conscience, il ne répondra pas. En tout cas, on verra ça la prochaine fois. On va juste terminer en que vraiment que ça puisse nous encourager à connecter, vraiment se brancher sur la vérité avec foi, avec confiance, avec obéissance. OK? Oui, Père Céleste, wow, merci parce que ta parole, Seigneur, a eu de l'effet dans ma vie. Il y a peut-être des personnes ici qui cherchent encore. Peut-être des personnes qui... à qui tu as parlé, Seigneur Dieu, qui hésite encore à t'accepter comme leur sauveur. Que ton Saint-Esprit maintenant soit à l'œuvre. Et qu'il fasse cette prière. Seigneur, je crois que tu es sauveur. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Que tu as effacé tous mes péchés. Et je t'accepte. J'accepte ton pardon. J'accepte ton amour. Seigneur, je reçois ton pardon et ton amour maintenant. Je choisis d'être un disciple de Jésus. Je choisis ta parole comme la vérité qui va changer ma vie. Seigneur, j'ai besoin que ma vie soit changée. Seigneur, j'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de ton amour. Et je le reçois maintenant, aujourd'hui. Viens dans mon cœur. Régénère mon cœur. Donne-moi un nouveau cœur. Un cœur réceptif à ta parole. Et un cœur qui va être transformé par ta parole. Un miracle. Un miracle dans le cœur qui va porter du fruit, que tout le monde va glorifier Dieu en voyant la transformation. Merci Seigneur pour tous ceux qui l'ont déjà fait, qui sont ici, semaine après semaine, Seigneur, qui nagent dans un monde où Dieu n'a plus de place. sans Dieu, sans foi ni loi. Des survivors, des combattants qui gardent la foi au milieu de la tempête. Merci, Seigneur Dieu, de l'œuvre du Saint-Esprit, de ton amour qui fait son effet dans nos cœurs. On te demande, Seigneur, de étendre ton message à travers nous, ici à Cloverdale, que ta parole se rende dans les foyers, de toutes sortes de façons. Que ton royaume vienne, que ta volonté se fasse, sur la terre comme au ciel. Amen.